La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 2 septembre partout en France. On fait un point avec Jean-Luc Delbany, chef de l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Port sur l'île-Dieu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Tarot.
Ça va bien ?
Ça va et vous ? Merci pour l'invitation.
Mais de rien, ça va très bien. Comment sont accompagnés les élèves ? Car la rentrée peut être un moment stressant pour certains ou certaines en primaire ou en sixième.
Alors c'est un moment stressant, j'ai envie de vous dire, pas seulement pour les élèves. Pour les familles aussi, pour les familles.
Et peut-être aussi pour le corps enseignant, non ?
Peut-être pour le corps enseignant, bien évidemment, bien évidemment. Alors, les élèves de CM2, quand ils passent en sixième chez nous, déjà c'est une étape effectivement stressante, c'est symbolique, mais c'est de la fierté également, c'est de la fierté d'être collégien. Donc ça, c'est un point. Mais notre établissement scolaire, nous avons l'école primaire qui est au rez-de-chaussée, le collège qui est à l'étage. Donc nous avons un ensemble scolaire dans le même bâtiment. Donc c'est une force, c'est une force. Nous avons les primaires, par exemple, ils ont entre 4 et 6 heures de cours au collège. Donc il s'agit bien d'un changement, mais c'est un changement de rythme, mais dans la même continuité. Ça, c'est un point
deuxième. Il n'y a pas de changement de lieu, c'est ce que vous nous dites.
Il n'y a pas de changement de lieu. Les primaires, ils connaissent déjà les enseignants du collège, par exemple. Ils arrivent, ils connaissent quelques règles. Ce n'est pas évident. Hein. Les grands de l'école qui deviennent les petits du collège, c'est une étape stressante. On arrive au collège avec plusieurs matières, avec plusieurs approches pédagogiques, avec des enseignants différents. Donc, c'est un changement qui est initié par les collègues du second degré. Et cette année, c'est nouveau chez nous, Monsieur Tarot, nous avons mis en place un dispositif qu'on appelle les veilleurs. Je tiens à remercier Madame David qui a travaillé sur ce projet, notre référente harcèlement. Et on a mis en place ce dispositif les veilleurs où il y a un tutorat entre les élèves de 3e et les élèves de 6e. Ils échangent avec eux à la récréation, ils cherchent, ils demandent des nouvelles de temps en temps. Et s'il y a des soucis, ils ne manqueront pas de revenir vers nous.
Et par contre, pour l'entrée en primaire, est-ce que ce jeune public est stressé ?
Non, il y a certains élèves. Ce n'est pas évident, après 2 mois de vacances scolaires, ce n'est pas évident de reprendre un rythme régulier. Et ça nous arrive souvent, mon fils a une boule au ventre pour venir à l'école. Début septembre, c'est tout à fait normal après deux mois de vacances.
Combien d'élèves accueillez-vous en primaire et au collège à l'ensemble scolaire de Notre-Dame-du-Port ?
L'année dernière, on était à 137 et cette année, cette rentrée scolaire, nous sommes à 155, soit une augmentation de 18 élèves.
Comment vous l'expliquez, cette augmentation de 18 élèves ?
Eh bien, écoutez, c'est l'implication des équipes, c'est la promotion de l'établissement. C'est le projet d'établissement. J'espère qu'on aura l'occasion,
On va en parler.
Mais c'est l'implication des équipes avant tout et la confiance des familles.
Comment s'articule le projet de l'établissement ? On en parlait à l'instant.
Merci pour cette question. Je tiens à rappeler que notre établissement est un établissement privé catholique, sous contrat avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes donc en conformité avec les directives de l'Éducation nationale.
Le français, les maths sont les mêmes, en privé ou au public, pour
bien
être clair,
évidemment.
Simplement.
Bien clair, et c'est un enseignement de qualité dans les deux établissements. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième point, nous avons une liberté, Monsieur Tarot, nous avons une liberté éducative et pédagogique qui se matérialise dans un projet qu'on appelle un projet d'établissement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans notre projet d'établissement ? Je ne veux pas vous le détailler, j'invite les familles à venir nous rencontrer, on pourra en rentrer dans les détails, mais je vais citer quelques pistes, quelques axes.
Quelques grandes lignes.
Alors déjà, la première étape, et on y tient énormément, c'est la proximité avec nos familles. C'est un établissement à taille humaine, c'est-à-dire moi tous les matins, sauf quand je suis en réunion sur le continent, tous les matins, moi j'accueille les élèves en maternelle. Et je les accueille un par un par son prénom, par le prénom de chaque élève. Donc, il y a un accueil personnalisé tous les matins. Et en fin de journée, je suis de l'autre côté de l'établissement scolaire où je suis avec les élémentaires et les collégiens. Donc, la proximité, j'y vais vers le contact des familles. Donc, ça, c'est important. Deuxième point, Monsieur Tarot, c'est la place de la famille. La place de la famille. Je rappelle que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Nous, vous le soulignez parce que c'est important.
C'est très important, Monsieur Tarot. Je vous donne un exemple. Une famille qui me dit, bah voilà, je viens inscrire mon enfant, je vous fais confiance, débrouillez-vous, je vous fais confiance. S'il faut le punir, vous le punissez. S'il faut faire quelque chose, allez-y. Ça ne m'intéresse pas, Monsieur Tarot. Et j'ai refusé deux familles l'année dernière. Ça ne m'intéresse pas. Nous impliquons les familles dans la prise de décision.
Oui, mais si les familles sont déjà perdues avec leur enfant, comment que ça se passe?
On les aide, nous avons des outils, on est là pour les accompagner. Mais on rappelle aussi qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Alors, ils sont perdus, même s'ils sont perdus, nous, ce qu'on attend de leur part, quand on les sollicite, qu'ils soient réactifs et qu'ils viennent nous voir rapidement pour nous aider à analyser les situations. Donc, la place de la famille. Nos familles sont invitées, ils ne sont pas convoqués. La troisième chose, la place de l'enseignant, M. Tarot. La place de l'enseignant. Nous sommes en 2024. Déjà, il y a un changement de l'enseignement avant le Covid et après le Covid. Nous sommes en 2024. Ce métier est réinventé aujourd'hui. L'enseignant n'est plus le seul dépositaire de l'information. L'enseignant n'est plus le seul sachant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les élèves sont assis, l'enseignant, voilà, le seul sachant, il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Ça n'existe plus. Le rôle, ça fait partie du rôle de l'enseignant, c'est d'être accompagnateur. Ça veut dire accompagner l'élève. Et qui dit accompagner l'élève, ça veut dire aimer son avenir.
Oui, mais dans certains cas, il faut mettre des cadres. Il faut que l'enseignant soit assez dur, non, avec certains élèves. Pour que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais je suis entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est un projet.
Parce que vous parlez accompagnement, simplement.
C'est un enseignement. On a l'enseignement de base, mais on a aussi l'accompagnement. Accompagner un élève, c'est aimer son avenir. Aimer un élève, c'est croire aussi en son avenir. Ça veut dire qu'on met l'élève au centre de son projet d'orientation. Nous avons une heure par semaine assurée par... Je remercie Mme Benassi et M. David qui assurent l'atelier découverte des métiers auprès des 4e et 3e, une heure par semaine.
Est-ce qu'ils font des stages, ces élèves?
Ça aussi, ça fait partie de notre projet d'établissement. Nous avons une semaine de stage obligatoire en 4e, deux semaines obligatoires en 3e et trois semaines de stage facultatifs pour les élèves de 3e. Mais je me permets de revenir sur l'atelier de découverte des métiers, M. Tarot. C'est important parce qu'il y a plusieurs déplacements sur le continent, une heure par semaine d'enseignement sur cette partie-là, mais c'est important, ils découvrent tous les métiers, y compris les métiers qui nécessitent un niveau d'études élevé, voire très élevé.
Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Au mois de mai, par exemple, au mois de mai 2024, tous les élèves de 3e sont allés au tribunal à La Roche-Durion pour assister à un procès, pour découvrir c'est quoi le métier d'un avocat, le procureur, d'un juge. Donc, ce sont des situations concrètes.
Qu'il y avait certains élèves qui étaient intéressés par ces métiers qui vous ont dit à la fin de cette rencontre, ça me plaît, je vais en faire mon métier? Vous n'avez pas eu de retour?
Alors, ce cas, nous n'avons pas eu de retour. On a fait un debriefing par la suite, on n'a pas eu de retour. Mais vous savez, le rôle de l'enseignant, c'est révéler les talents de chacun.
Donner des pistes.
Ça fait partie de notre mission. Et dans notre projet d'établissement, nous avons ce qu'on appelle une politique sociale. Ça veut dire quoi? Moi, dès que je suis arrivé ici sur l'île, très bien accueilli par les élèves et les élèves, merci beaucoup. Dès que je suis arrivé sur l'île, j'ai mis en place une politique sociale. C'est vrai, nos frais de scolarité ne sont pas très bas. Nous avons entre 35 et 40 euros par mois sur 10 mois. Mais malgré les frais de scolarité qui sont bas, j'ai tenu à mettre en place une politique sociale pour aider les familles qui sont en difficulté financière. Donc, en résumé, M. Tarot, je ne veux pas tout citer, mais en résumé, c'est un projet porteur de sens et de repères. C'est un projet qui permet à chaque élève d'avoir un cadre, vous en parlez il y a quelques instants, d'avoir un cadre, être stimulé et être reconnu surtout.
Vous nous avez parlé de stages en entreprise. C'est les élèves qui choisissent les stages ou ils sont accompagnés de professeurs?
Non, ce sont les élèves aidés par les enseignants dans le cadre de l'atelier découverte des métiers où on explique aux élèves déjà qu'est-ce qu'un CV, qu'est-ce qu'une lettre de motivation, comment contacter un employeur pour décrocher un stage. Nous sommes sur une île, on conseille toujours à nos élèves de se déplacer. on prend le vélo, on se déplace. Ce n'est pas la peine d'envoyer un mail ou les appeler. On se déplace directement, on essaye de se vendre. Donc, ils apprennent ça une fois par semaine.
CV, lettre de motivation, c'est en troisième, quatrième ? Ou les deux d'ailleurs ?
C'est les deux.
Comment sont accompagnés les élèves en difficulté ou en échec scolaire ou même en handicap ?
Un handicap d'apprentissage, vous parlez.
Ou physique ?
Pour un handicap physique, nos locaux sont adaptés. Sauf les sanitaires du collège, nous sommes en train de travailler sur ce... On devait faire les travaux au mois d'août. Malheureusement, ça a été reporté au mois de janvier ou février au plus tard 2025. Mais nous avons un ascenseur, les locaux sont adaptés, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Exact. Alors, comment on accompagne les élèves en difficulté ? Ou en échec scolaire. Le premier dispositif, Monsieur Tarot, c'est l'implication des familles. C'est le premier dispositif.
Vous nous en avez parlé.
J'y tiens. C'est important parce que quand on a un élève en difficulté ou en échec scolaire, le rôle de la famille est important. On invite la famille qui nous aide à analyser la situation.
Comme je vous le disais, si ce jeune public est un tyran en sa famille et que la famille est perdue, comment vous faites pour trouver peut-être des pistes de réflexion ?
Alors, nous avons auprès des 5e et 6e, dans leur emploi du temps, il y a une heure par jour qu'on appelle une heure d'accompagnement scolaire. Nous avons également les heures d'études pour les 4e et 3e limitées à 10 élèves maximum. Mais l'heure d'étude n'est pas automatique. Pour quelle raison ? Parce qu'on peut avoir un élève en difficulté, mais lui rajouter une heure de plus, parfois, c'est contre-productif. Ça peut mener à une surcharge cognitive, d'où l'intérêt d'impliquer les familles dans la prise de décision. Et l'équipe pédagogique, bien évidemment.
Mais l'heure d'étude, c'est pour faire les leçons, entre autres, non ?
Alors, c'est pour faire les leçons, mais cette année, on a changé avec l'équipe pédagogique. Ils ont plus de liberté, l'heure d'étude peut être transformée en accompagnement ou en soutien scolaire. Mais si je peux me permettre...
Je vous en prie.
Depuis que je suis chef d'établissement, on me pose toujours la question sur les élèves en difficulté ou en échec scolaire. C'est très rare qu'on m'interpelle sur les élèves performants. On ne me pose jamais la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves performants ? On parle beaucoup des stages de réussite pour les élèves en difficulté. Mais moi, j'ai envie et j'ai une nouvelle à annoncer et je l'ai réservée à vous, Monsieur Tarot, et à vos auditeurs. C'est que cette année, nous allons mettre en place non seulement un stage de réussite pour les élèves en difficulté, mais nous mettrons en place un stage de perfectionnement pour les élèves qui performent chez nous. On en a des élèves qui sont performants et qui ont besoin d'être alimentés. Vous voyez ? Donc, en ce moment, on leur demande d'aider les élèves en difficulté, mais ces élèves, ils ont besoin d'aller encore plus loin dans les apprentissages.
Donc, comment vous allez les accompagner pour aller encore plus loin ?
Nous mettrons en place... les enseignants le font déjà, que ce soit en primaire ou en secondaire, la différenciation. Donc, quand il y a un élève qui termine son activité, on lui donne une autre activité, on l'alimente régulièrement. Mais nous allons encore plus loin. Ça veut dire qu'on va profiter des vacances scolaires. La première semaine de vacances scolaires, peut-être du mois d'avril, la date n'a pas été décidée. Mais en tout cas, le projet est fixé et validé. Il n'y a pas de souci. On a travaillé là-dessus avec mes collègues primaires et secondaires. Ça sera les 3 premiers jours des vacances scolaires du mois d'avril où il y aura un groupe stage de réussite pour les élèves en difficulté. Et un autre groupe, l'après-midi, ça va être de 13h30 à 17h peut-être. C'est en cours de réflexion. Pour les élèves performants et qui ont besoin d'aller plus loin dans les apprentissages, il y aura des activités mathématiques poussées, de français, de toutes les matières.
Ah oui, ce n'est pas des stages en entreprise, c'est ce que vous
dites.
Non,
c'est des stages qui sont assurés. Non, oui, c'est effectivement, le stage, c'est un face-à-face pédagogique avec les enseignants.
Tout autre chose, hors enseignement scolaire obligatoire, quelles activités pédagogiques, sportives ou culturelles sont proposées aux élèves ?
Alors, avant tout, nous avons la catéchèse. La catéchèse pour les élèves volontaires, hors temps scolaire, parce que nous sommes sous contrat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on ne peut pas mettre en place la catéchèse sur le temps scolaire. Donc, nous avons la catéchèse uniquement pour les volontaires, pour nos élèves de primaire. Nous avons également plusieurs dispositifs qu'on propose à nos élèves, que ce soit primaire ou secondaire. Nous avons aussi la guitare. C'est un atelier guitare pour les élèves de CM2 et 6e, tous les lundis. C'est un atelier animé par un enseignant qui est diplômé d'État et qui enseigne dans un conservatoire sur le continent. Nous avons aussi ce secourisme, 100% de nos collégiens, 100% de nos collégiens sont formés aux gestes de premier secours. Il s'agit d'une formation avec un diplôme.
Et avec les pompiers de l'Île-Dieu.
Avec les pompiers de l'Île-Dieu, si on veut préciser, c'est avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée.
Vous avez bien fait de préciser.
Que je remercie, qui sont des pompiers de la Vendée. Donc, nous avons aussi 100% de nos primaires qui sont sensibilisés aux gestes de premier secours par les collégiens. Ça veut dire que nos élèves en troisième vont dans les classes, bien évidemment sous la responsabilité d'un adulte, vont dans les classes en primaire pour sensibiliser leurs camarades. Bien évidemment, nous avons aussi les activités nautiques pour nos élèves, plongée, voile, etc. Et nous avons, on en a parlé il y a quelques instants, des stages facultatifs qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines de stage pendant les vacances scolaires pour nos élèves.
Vous ne proposez pas d'informatique avec notamment du codage, car ça, c'est à la mode et il y a beaucoup de métiers maintenant qui découlent de l'informatique.
Je vous remercie. Je vois que vous avez lu notre projet d'établissement et je vous remercie, M. Tarot. Effectivement, on propose en sixième uniquement, on propose de la programmation informatique, mais en anglais. Donc, ça fait de l'interdisciplinarité. Ça, c'est un point. Et deuxième point...
Pourquoi en anglais?
Mais parce que c'est ça le monde de demain. Ça n'existe pas, la programmation informatique en français, M. Tarot. Voilà, donc ce qu'on fait avec nos élèves, là, le programme, pour cela, on a cette liberté pédagogique, M. Tarot. On a cette liberté pédagogique. Le programme de l'éducation nationale, on propose un logiciel en français. On le fait, on le travaille avec nos élèves, le logiciel de programmation en français. Mais le monde de demain, c'est quoi? C'est la programmation en anglais. Donc là, j'ai commencé avec mes élèves en sixième. Le mois de septembre, c'est de la programmation uniquement en français. Et c'est à partir du mois d'octobre, puis par la suite jusqu'à fin juin, en collaboration avec Mme Gendron, la professeure d'anglais, qu'on va commencer la programmation en anglais.
Il y a beaucoup d'élèves qui pratiquent la programmation?
J'ai une dizaine d'élèves.
Vous leur faites programmer quoi?
Alors là, on a commencé le dernier programme qu'on a fait en français. Ça veut dire qu'on a utilisé le codage en français. On a mis en place une calculatrice qui permet d'additionner, soustraire ou multiplier de nombres.
Et après, c'est quoi le programme?
On va aller encore plus loin, mettre en place un petit jeu de labyrinthe. Voilà, il y a une figurine qui rentre, il faut trouver un chemin de sortie. Et ça, c'est de la programmation, ça nécessite beaucoup de raisonnement.
Avant de se dire au revoir et parler des portes ouvertes, quels sont les rôles des deux associations, LOGEC, Organisation de gestion d'établissement et catholique, et l'appel?
Alors, déjà, l'appel, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre.
Qui organise notamment des lotos, par exemple?
Alors, qui organise de lotos, c'est ça l'image que nous avons de l'appel, M. Tarot, mais pas uniquement, mais pas uniquement des activités de loisirs, loto, kermesse, etc. Non, l'appel est présente en conseil d'administration. Ils sont présents en conseil d'administration. La présidente de l'appel, Mme Jean, est présente en conseil d'administration de l'OGEC. Mais l'appel est présente en conseil de classe, par exemple. Si jamais on a un conseil de discipline, l'appel est présente en conseil de discipline. L'appel aussi essaye de promouvoir des activités. Là, on est en train de travailler sur une conférence pour sensibiliser nos familles sur les réseaux sociaux, par exemple. On va faire appel à des spécialistes pour faire une conférence.
Pour parler réseaux sociaux.
Pour parler réseaux sociaux avec nos adolescents.
Sur les réseaux sociaux.
Bien évidemment.
Harcèlement sur les réseaux sociaux. Bien évidemment.
Bien évidemment. Donc ça, c'est prévu. L'appel, notre appel, tous les ans, ils font déplacer des psychologues à leurs frais, aux frais de l'association des parents d'élèves. Ils font appel à des psychologues du continent qui viennent pour mettre en place une cellule d'écoute. Voilà. Que ça soit pour les enfants ou pour les parents. Hein. Donc, l'activité l'appel ne se pas uniquement le côté kermesse, côté loisir. Mais là, par exemple, cette année, nous avons un très bon projet, faire du ski pour les primaires et les collégiens. C'est presque 120 élèves qui vont faire du ski en Haute-Savoie. Donc, l'appel met en place des actions pour financer aussi ce projet.
Et le rôle de LOGEC, qui est l'organisme de gestion de l'enseignement catholique?
Ils sont à la charge de l'entretien du bâtiment scolaire. Voilà, voir leur construction si nécessaire. Nous avons un conseil d'administration qui est formé de dizaines de membres qualifiés pour faire voter le budget des travaux, hein, je parle le budget de travaux, les travaux à prévoir, les travaux réalisés, on fait le point sur les travaux réalisés, les travaux à réaliser. Donc, et on a un conseil d'administration, on se réunit entre 3 et 5 fois par an.
Avant de se dire au revoir, allez-vous organiser prochainement des portes ouvertes pour découvrir l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Port ?
Oui, c'est prévu, c'est le 24 janvier, le vendredi 24 janvier de 13h30 à 20h30. De 13h30 à 20h30, ça permet à nos familles, aux visiteurs, les nouvelles familles qui veulent découvrir d'autres projets d'établissement, d'autres projets éducatifs également, ils peuvent venir assister à des ateliers en présence des élèves. Ils seront également sensibilisés à l'alerte et au premier secours. Ils peuvent échanger avec les enseignants de primaire et du collège.
Ces portes ouvertes, en vous écoutant parler, s'adressent à toutes et à tous.
À toutes les familles. À toutes les familles de Lille, ça sera avec plaisir de les accueillir chez nous.
Vous pouvez rappeler la date.
24 janvier de 13h30 à 20h30.
Jean-Luc Delbany, chef de l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Port, merci beaucoup.
Merci à vous.